Il a été diagnostiqué au bout de 2 ans, schizophrène. Il a été hospitalisé suite à des comportements vraiment qui n'étaient pas gérables.
En essayant de toucher au maximum le grand public, on touche aussi des entourages, on peut toucher aussi des patients ou des gens qui à un moment de leur vie où, ont déjà eu affaire à un trouble psychique.
Il y a eu à peu près 2 ans et demi d'hospitalisation avant qu'on puisse envisager quelque chose en dehors de l'établissement où il était hospitalisé.
Le 26 janvier, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, présentait un plan de 12 mesures d'urgence en faveur de la psychiatrie. Elle soulignait la nécessité de déstigmatiser les malades et de garantir la qualité et la pertinence des soins. Mais ces annonces n'ont pas calmé les inquiétudes. Un rapport de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté vient de dénoncer les conditions d'accueil des patients relevant de la psychiatrie au centre hospitalier de Saint-Étienne. Et au-delà de ce cas particulier, constate Adeline Azan, les pratiques d'isolement et de contention ne sont toujours pas suffisamment encadrés. Dans une tribune parue dans le journal Le Monde le mois dernier, des médecins, élus et représentants d'associations font part d'une autre préoccupation. Si le soin psychiatrique participe au rétablissement des malades, souligne-t-il, il n'en est qu'une partie. Les signataires demandent ce qui va être fait pour favoriser l'autonomie des personnes et comment on va les accompagner vers le logement, l'insertion sociale et professionnelle ou la citoyenneté. Se pose aussi la question du regard que notre société porte sur les troubles psychiques. 2 événements sont programmé ce mois-ci dans l'espoir de le faire évoluer, les semaines d'information sur la santé mentale et les journées de la schizophrénie. La schizophrénie qui touche près de 600 000 personnes en France mais reste très mal connue, d'où notre choix de nous y intéresser plus particulièrement aujourd'hui. Schizophrénie, vivre avec, c'est un magazine signé Sarah Maquet. Pour écouter et commenter ce reportage, l'un de nos invités est en direct de Bordeaux, dans les locaux de France Bleu Gironde. Il s'agit de Michel Lafourcade, c'est le directeur de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine et l'auteur du dernier rapport relatif à la santé mentale remis à la ministre de la Santé en octobre 2016. Et puis en studio à Paris avec nous, Marie-Odile Krebs, psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne et professeur de psychiatrie à l'université Paris-Descartes. J'ajoute également que vous êtes directrice d'une équipe INSERM. Bonjour.
Bonjour.
Marie-Odile Krebs, la schizophrénie se déclare le plus souvent à l'adolescence ou chez de jeunes adultes. Comment se manifeste-t-elle? Quels sont les principaux symptômes?
Alors, on définit souvent la schizophrénie avec les symptômes les plus caractéristiques, c'est-à-dire les hallucinations, le délire, faussement nommé symptômes positifs, parce qu'en plus du fonctionnement normal. En réalité, il y a aussi toute la dimension qu'on appelle les symptômes négatifs, c'est la difficulté, la perte d'initiative, la difficulté à se mettre en route, la difficulté à ressentir des émotions, et tous les éléments qui font finalement que les personnes perdent un peu pied avec un fonctionnement normal, un fonctionnement, leur fonctionnement habituel. Et une dimension qui est de plus en plus mise en avant, qui est celle des troubles cognitifs qui en fait apparaissent très tôt et qui sont réellement ceux qui gênent le rétablissement ultérieur et qui sont une vraie difficulté pour les patients.
D'accord. Avant de poursuivre la discussion, place au témoignage recueilli par Sarah Maquet. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Lorsque les familles sont confrontées à un premier épisode psychotique, c'est très troublant pour elles. Elles sont vraiment désemparées. Et donc, parallèlement aux soins proposés aux malades, il existe aujourd'hui des programmes pour accompagner les proches.
Oui, alors en effet, comme le programme ProFamille, un programme en 2 ans créé au Québec et développé en France depuis une quinzaine d'années. Il s'agit d'une approche psychoéducative, donc ce n'est pas un groupe de parole, c'est plutôt une sorte de cours pratique destiné à donner aux familles les moyens de mieux communiquer avec leurs proches malades. C'est également destiné à leur donner les moyens de trouver une place dans un parcours de soins assez complexe. Alors j'ai intégré cet automne un groupe ProFamille à Poitiers, 6 mois de rencontres une fois par semaine. Alors pas facile au début pour les parents participants d'accepter la journaliste. Ils avaient notamment peur de voir leurs proches souffrant de troubles psychiques seulement cités à l'occasion de faits divers sordides ou alors qu'ils soient toujours taxés de représentations négatives ou erronées. Et puis finalement, à force d'échanges, de réponses aux devoirs un peu copiées les uns sur les autres ou encore après des jeux de rôle, les parents ont finalement accepté de me raconter leur histoire et de me présenter leurs enfants. Là encore, pas facile de se raconter au micro, mais c'est finalement l'envie de faire changer le regard sur leur quotidien qui a convaincu ces familles de témoigner.
Et on va tout de suite entendre Aline et son fils de 20 ans, Antoine, qui a dû être hospitalisé sous contrainte il y a 14 mois.
Quand Antoine a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte, le temps passe, on vous appelle et en même temps on vous dit rien. On vous parle pas de traitement, vous dit rien. On vous dit juste que ça prendra du temps. Et quand on demande à pouvoir justement voir son enfant, on vous dit non, pour l'instant c'est pas possible. 3 semaines se sont écoulées dans cette unité fermée. À force de solliciter les intervenants sur place, que j'ai demandé à avoir Antoine ne serait-ce qu'un court moment. Donc on s'est vu un petit quart d'heure, tu t'en souviens ? On s'est vu un petit quart d'heure, c'était assez impressionnant parce qu'il était encore dans l'unité fermée. Et l'unité fermée, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est des gens figés, des gens qui crient, des gens pas bien. C'est à ce moment-là que j'ai appris qu'Antoine était resté 3 jours en chambre d'isolement, tu t'en rappelles ?
Oui.
Et que j'aurais aimé le savoir avant. J'ai demandé à rencontrer donc le médecin qui s'occupait plus particulièrement d'Antoine. Je lui ai adressé un courrier. Est-ce que je peux le lire ?
Oui, vas-y.
Ouais, tu veux bien que je le lise ?
Ouais.
Donc, monsieur, je m'adresse, je reviens vers vous suite à notre première entrevue concernant mon fils, profondément affecté par la gravité des troubles qui l'ont conduit à une prise en charge hospitalière sous contrainte dont il m'est difficile d'assumer émotionnellement la nécessité. J'ai toutefois pleinement conscience qu'elle demeure à ce jour indispensable à Antoine. Ces derniers mois, mon fils est isolé de plus en plus dans sa chambre jusqu'à ne plus vouloir prendre ses repas avec sa sœur et moi, tout comme nos invités, y compris les plus proches. Il me disait ne pas avoir faim, et dès que nous étions couchés, il dévalisait le frigidaire et les placards. Il lui arrivait aussi régulièrement de sauter des repas parce qu'il dormait en journée, ce qui provoquait des disputes. Dans un premier temps, j'ai attribué son repli à la nécessité de reprendre ses distances avec moi, ou de les prendre ses distances avec moi, compte tenu de son âge, aussi du fait qu'il consommait du cannabis, qu'il associait parfois avec une consommation démesurée d'alcool. Nous en parlions, quand il se montrait disponible. J'ai tenté de nombreuses fois de le réguler en imposant des limites horaires qui provoquaient sa virulence. Il s'en prenait alors aux objets de la maison en les cassant. Il se cognait la tête contre les murs. Et je finissais par céder à sa demande par peur de voir tout dévaster et ainsi espérer faire taire l'escalade de son agitation pour ne pas dire fureur. Aussi, pour protéger sa sœur et moi-même, il m'est arrivé d'appeler la police à 2 reprises, car je ne parvenais pas à calmer mon fils. C'était très culpabilisant et je me sentais alors une mauvaise mère. Il m'est difficile d'imaginer ce qui peut se tramer sous la peau de mon fils lorsqu'il s'est trouvé à se raser la tête, se regarder dans le miroir comme s'il se cherchait lui-même à s'asperger le visage et se gratter la tête de manière répétée, à ignorer notre sommeil en monologuant longtemps derrière nos portes. Des portes qu'on enfermait à clé pour éviter qu'il ne subtilise les objets pour les détruire, se les approprier ou les jeter. Tellement dans sa tête qu'il ne se lavait plus, qu'il lui arrivait d'uriner dans le lavabo ou dans les verres, tellement dans sa tête que sont apparus les ils. Ils sont là, ils savent, ils nous observent, mais qui et pourquoi ? Ça, c'est donc le courrier que j'avais adressé au médecin qu'on avait rencontré, où tu étais là.
D'accord.
Tu l'avais déjà entendu, ce
non, je l'avais pas entendu. Mmh. Non, mais je savais pas qu'elle avait écrit ça.
Qu'est-ce qui te fait bizarre ?
Bah, c'est un peu. Des fois, c'est exagéré quand même. Plutôt.
Qu'est-ce que tu trouvais exagéré ?
Par exemple, quand je me mettais en colère tout le temps, c'est pas vrai.
Ah, bah, c'était pas tout le temps. C'était peu de temps avant ton hospitalisation où finalement il y avait tout un tas d'événements qui nous posaient question et puis on savait pas comment y répondre.
Ouais.
Je pensais que c'était. Voilà, il y avait quelque chose qu'on devait faire pour t'aider. Mmh. Et c'était pas facile, parce que tu étais grand, quand même. Mmh. Tu vois ? Ça fait 14 ans, maintenant. Je pense qu'il est nécessaire, maintenant, que les institutions se rapprochent un peu plus en direction des familles, pour vraiment œuvrer avec elles, mais ne pas pointer les parents, comme j'ai eu le sentiment parfois, comme des personnes qui ne sont pas des personnes de confiance. Parce que ça ajoute une blessure. Ça ajoute une blessure.
Bonjour Pierre.
L'aide pour Aline est venue du programme Pro Famille, un programme psychoéducatif destiné aux proches de patients souffrant de schizophrénie. Un programme sur 2 ans conçu au Québec et développé en France depuis une quinzaine d'années.
Donc on va maintenant corriger les questions de révision avec les petites pancartes oui-non. Bien, qui est-ce qui veut démarrer ? On vous écoute.
Donc, Hélène, souffrant de schizophrénie, 24 ans, était bien stabilisée sous traitement. Ses parents pensaient qu'elle était sortie d'affaire. C'est alors qu'Hélène a commencé à arrêter le traitement, prétextant qu'elle n'en avait plus besoin, qu'elle n'était plus malade. Ses parents lui ont reproché son immaturité. Pensez-vous qu'ils aient raison de penser cela ?
Même chose, vous êtes tous d'accord pour dire non ? Comment vous avez justifié ?
Mon défaut de perception, ce n'est pas qu'il ne veut pas voir, c'est qu'il ne peut pas voir. Ce n'est pas un problème d'immaturité ou de déni. Le cerveau marche mal et n'encode pas l'information.
La psychiatre Nathalie Guillard-Bouet s'est battue en 2011 pour mettre en place Profamille à Poitiers, prendre en compte les familles et leur donner une place dans le système de soins, un concept fréquent en Amérique du Nord, toujours compliqué à développer en France.
C'est peut-être une de nos difficultés actuelles en psychiatrie, c'est qu'on ne communique pas beaucoup sur ce qu'on fait, ce qu'on sait faire. Il faut savoir quand même que là, bon, Profamille, ça fait 6 ans que ça existe à Poitiers. Si on considère qu'il y a une prévalence de la maladie de 1%, le département de la Vienne, il y a à peu près 400 000 habitants, on a donc 4000 patients et on peut imaginer qu'ils sont chacun un voire deux proches. Du coup, on imagine le pourcentage de gens potentiellement intéressés par Profamille. Or, on fait 2 programmes à l'année. J'ai pas une liste d'attente à la hauteur des gens qui seraient concernés en fait. Donc on a vraiment tout un travail de communication à faire autour des aides qui existent effectivement. C'est-à-dire que la Profamille, on a parlé d'un programme psychoéducatif, mais ça rentre tout à fait dans le champ de l'éducation thérapeutique qui est quand même fortement préconisé par toutes les recommandations, la HAS et compagnie. Après, la difficulté qu'on a, c'est par rapport aux décideurs politiques, c'est de leur montrer que en faisant de la psychoéducation ou de l'éducation thérapeutique pour les proches, ça a un impact dans la prévention des chute des personnes qui souffrent de schizophrénie. Et l'éducation thérapeutique, ça s'appelle éducation thérapeutique, le P c'est pour patient. Donc du coup, les décideurs ils s'imaginent qu'il faut que cette éducation thérapeutique elle soit ciblée uniquement sur le patient. Or nous ce qu'on dit c'est qu'en aidant les familles, mais indirectement on aide les patients. Et là il y a une petite incompréhension qu'il va falloir assez rapidement gommer. Mais bon, il faut quand même préciser que le rapport Lafourcade de 2016 préconise les programmes psychoéducatifs, notamment pro famille. Donc là il y a quand même des avancées assez notables.
Oui, Sarah, 2e étage.
Ok, merci. Arrivée chez Louise, 22 ans, elle vit en colocation avec son frère Jonathan qui souffre de schizophrénie. Il accepte de témoigner, mais le micro le met finalement trop mal à l'aise.
Bonjour, enchantée. Sarah.
Jonathan,
est-ce que ça te dérange si Louise, elle me raconte un peu ton parcours, ce que tu me disais tout à l'heure, là, au niveau de là où tu as grandi, puis de l'hospitalisation, tout ça. Je sais pas si tu veux me raconter ou si tu veux que Louise raconte...
Il a 36 ans, Jonathan, et moi j'étais toute petite, j'avais 4 ans quand ça a commencé. Mon frère il a eu un accident de voiture, je sais pas si tu veux que j'en parle. Et après ça, il y a eu 2 années de dépression, il y a eu des visites avec des psychologues, et il a été diagnostiqué au bout de 2 ans, schizophrène, donc un peu avant tes 20 ans, un peu avant 20 ans. Et il était très replié sur lui-même. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait une frustration, je pense, du côté de mon père, enfin de mes parents. Donc il y avait des fois des crises un peu de colère pour essayer de faire, en fait, de faire réagir la personne en face de soi. Donc il a été hospitalisé suite à des comportements vraiment qui n'étaient pas gérables. C'était une hospitalisation forcée au début. Et après ça, moi, tous mes souvenirs pendant les 10 années qui ont suivi, c'est juste les visites une fois par semaine de mon frère à l'hôpital. Mais du coup, il était, c'était plus un mutisme. Il n'était pas du tout comme aujourd'hui, enfin comme on voit là. Vraiment incroyable. Désolée, lourdeur. T'es sûr que tu veux entendre tout ça ? C'est le début qui a été, je pense, les 10 premières années qui ont été très compliquées parce qu'il y avait une méconnaissance aussi, je pense, plus forte il y a 10 ans qu'aujourd'hui. Mmh. Et donc, il y avait beaucoup d'incompréhension, d'incohérence, de mauvaise communication entre les psychiatres et mes parents. Après, moi, j'étais jeune. Hein. J'étais vraiment toute petite et moi, je savais pas, en fait, ce qui se passait. Je comprenais pas ce que c'était, cette maladie. J'ai pas eu l'impression qu'on m'ait expliqué concrètement ce qui se passait. En fait, jamais. Et c'est seulement 15 ans plus tard, c'est aujourd'hui, où on en parle, où on... Ça... Parce que donner des clés à l'entourage, pour... en fait, ça permet de mieux discerner ce qui se passe dans l'intimité, pour pouvoir vraiment travailler après concrètement avec des psychiatres, avec des... l'extérieur. Parce qu'en fait, c'est à l'intérieur des maisons où c'est important de discerner ce qui se passe. Parce qu'après, pendant des rencontres avec des psychiatres, enfin, les psychiatres ne sont pas dans l'intimité, en fait. On ne peut pas imaginer à quel point ce qui se passe, c'est troublant. Ça n'a pas de sens.
Jonathan, merci beaucoup.
Pas de problème.
À bientôt.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Et à
peine
maintenant.
Au revoir.
Comme j'ai pas l'habitude de voir mon frère avec des relations sociales, je suis la seule relation sociale qui est là, et du coup, et ben quand je le vois avec des gens, et je suis, mais sur le, en fait, je me dis, mais en fait, il pense tout ça, il dit tout ça, il, à des moments, je vois bien quand il trafique ou quoi, mais ou son humour aussi qui est tellement à lui, qui lui est propre, et quand là, je le vois parler avec toi de tout ce qu'il a dit, je suis mais tellement mais choquée, j'ai jamais entendu parler de ça parce qu'il me parle pas à moi. Il y a quelque chose de lourd dans rien que le fait de dire mon frère est schizophrène ou je vis avec un schizophrène. On pourrait penser, oui, il y a quelque chose, il y a une lourdeur derrière ça. Mais en fait, au final, je me rends compte que c'est moi qui suis stressée parce que lui, il est, comme tu as vu, il est insouciant, il est drôle, il est normal en fait. Enfin.
Normal, un terme banni en psychiatrie, mais dont le médecin Jean-Victor Blanc s'empare pourtant pour parler autrement de santé mentale.
La psychiatrie, la maladie mentale continue de faire peur aujourd'hui.
Là, il donne une conférence à la Fondation des États-Unis à Paris, intitulée « Culture pop et psychiatrie ». Sur l'affiche de l'événement, que des stars entre guillemets normales, Britney Spears, la famille Kardashian, ou encore quelques références cinématographiques.
Donc quand on parle de troubles psychiques, c'est assez étonnant, mais ce que ça évoque de premier lieu, c'est ça. Encore aujourd'hui, en 2018, c'est Vol au-dessus d'un nid de coucou. C'est un film qui a plus d'une quarantaine d'années. Donc on se dit qu'il y a quand même d'autres références qui auraient pu émerger depuis. Et pourtant, aujourd'hui, quand pendant une garde aux urgences, je peux proposer une hospitalisation à quelqu'un en psychiatrie, la réponse en général la plus spontanée, c'est « Ah non, je ne veux pas être dans Vol au-dessus d'un nid de coucou ».
Rencontre avec le psychiatre à la fin de ces 2 heures de conférence.
C'est pendant mes études de médecine que je me suis intéressé à la psychiatrie à la faveur d'un stage en psychiatrie. Moi, ça m'a tout de suite beaucoup plu. Et quand j'ai commencé à en parler autour de moi, je me suis rendu compte à quel point c'était discriminé. On m'a dit « Ah, mais tu vas devenir fou », etc., etc. D'une manière clinique et dans mon exercice quotidien, c'est vrai que je rencontre souvent, même quasiment tout le temps, les familles des patients que je suis, notamment quand ils sont hospitalisés, parce que justement, l'entourage, c'est l'entourage d'un patient, mais il est issu du grand public et il arrive avec ses représentations qui sont parfois celles du grand public. Donc je pense que ce travail-là, et moi, ce qui me passionne et ce qui m'intéresse dedans, c'est de se dire qu'en essayant de toucher au maximum le grand public, on touche aussi des entourages, on peut toucher aussi des patients ou des gens qui, à un moment de leur vie, ont déjà eu affaire à un trouble psychique. Et donc je pense que c'est autant d'occasions pour justement essayer de faire un travail aussi de pédagogie et... qui peut être préparatoire ou pas d'ailleurs, hein, parce que beaucoup de gens sont très intéressés sur ces questions-là sans aucune arrière-pensée derrière, et tant mieux, pour le coup, tant mieux.
Ça se fait pas systématiquement que le psychiatre ou la psychiatre rencontre les proches des personnes souffrant de maladies psychiques ?
Ça dépend des praticiens. Ça dépend des praticiens, moi je sais que je le fais.
Il y a un an, l'association Une Femme a publié une étude sur la prise en charge des malades psychiatriques. 2800 familles ont été interrogées. Les trois quarts disent devoir accompagner elles-mêmes leurs proches au quotidien. Et 30% des malades vivent, même adultes, chez leurs parents. Les familles se disent en général épuisées. C'est le cas de Christine. Elle vient de passer des mois à essayer de scolariser son fils de 15 ans, tout juste sorti d'une hospitalisation longue pour troubles psychiques.
Alors en fait, il s'est arrêté à la fin du premier trimestre de 5e, qu'il avait très brillamment réussi. Et c'est la pression qu'il s'est mise, en fait, qui a fait clasher et c'est là où les problèmes ont commencé et les hospitalisations plus longues. Il y a eu à peu près 2 ans et demi d'hospitalisation avant qu'on puisse envisager quelque chose en dehors de l'établissement où il était hospitalisé. C'est-à-dire que Pierre a intégré un groupe de l'IME qui s'occupe des espaces verts. Et du coup, là, on est plus dans la pratique, dans le faire, et il y a moins de difficultés. En plus, ça lui convient très bien d'être dehors, à travailler dans la nature. C'est très bien parce qu'effectivement, Pierre peut participer et faire apprendre des choses concernant les espaces verts qui le passionnent. Mais en même temps, il n'est pas complètement à sa place parce qu'il est avec des jeunes qui ont des déficiences intellectuelles, psychiques, qui n'est pas le cas de Pierre. Donc, il y a un décalage et moi, ma crainte, c'est qu'il ne soit pas tiré vers le haut non plus et qu'il ne puisse peut-être pas prétendre à quelque chose qui soit à la hauteur de ses compétences intellectuelles. C'est ça qui est frustrant, de voir qu'il n'y a rien qui existe pour des enfants comme Pierre. C'est problématique parce que le projet de Pierre, c'était de passer en CAP. Il y avait un dispositif jusqu'à cette année, le dispositif SARA, qui était un accompagnement de jeunes justement qui rencontraient des difficultés pour passer des CAP notamment. Et c'était un accompagnement sur 2 ans avec une espèce de garantie de résultat. Et malheureusement, ce dispositif, pour des raisons financières, s'arrête cette année, à la fin de cette année. Et pour le moment, n'est pas remplacé par autre chose. Donc ça veut dire que la perspective de CAP, pour le moment, est en suspens. Il y a d'autres choses que des CAP, c'est les RAE, donc c'est des reconnaissances des compétences métiers, qui sont maintenant mises en place pour justement pallier un peu le manque de diplômes pour certains jeunes. Ça n'aura pas le même impact, ça n'aura pas la même valeur auprès des employeurs. Oui, c'est forcément inquiétant en tant que parent de se dire comment allons-nous aider notre enfant à s'insérer dans un milieu professionnel quel qu'il soit pour qu'il puisse soit décrocher le diplôme qu'il souhaite, soit passer les différents en apprentissage. C'est très à la mode actuellement, l'apprentissage. Il faut remettre l'apprentissage en marche. Oui, mais quid des enfants qui sont différents, qui ont plus de difficultés, ça, on n'en parle pas. Donc forcément, en tant que parent, quand on voit comment ça se passe au niveau des études et de la scolarité, c'est inquiétant de se projeter dans le monde professionnel pour notre enfant. C'est dur à vivre, et d'autant qu'on a un enfant qui a envie d'apprendre, qui a envie de faire des choses. Et à chaque fois, devoir se fermer toutes les portes devant nous, c'est compliqué.
Même réflexion chez Aline et Antoine, que nous avons déjà rencontrés en début de reportage. Eux discutent de l'accès à l'emploi, car Antoine vient de visiter un ESAT, un établissement médico-social pour l'insertion professionnelle des adultes handicapés.
Tu vas pouvoir le faire ou ça t'intéresse,
ouais,
ou toi c'est
ça m'intéresse.
Plus, D'accord. Donc là, c'est quoi ça t'a plu là-bas? C'est comment?
J'ai pas encore commencé.
D'accord. Tu sais quand ça sera ou pas?
En avril.
D'accord. Ok. Pour combien de temps?
2 mois. Ah. Pour commencer, c'est 2 jours. Ensuite, c'est un peu plus. C'est combien?
Alors ensuite, c'est effectivement, tu signeras un contrat sur 2 mois, dans la mesure où les 2 premiers jours, tu te sentiras capable d'investir ce lieu. Donc c'est un travail à adapter en fonction de différentes activités. Et durant les 2 mois, tu auras un temps ajouté chaque semaine pour voir justement ta tolérance au travail. Et par la suite, avoir une opportunité de pouvoir prétendre à un contrat plus long. Mais ça suscite encore d'être sur liste d'attente. Et ça, c'est aussi un problème assez récurrent, c'est qu'il n'y a pas assez de places disponibles. Ce qui fait que, dans un sens, on laisse la possibilité justement d'inclure des jeunes, et c'est tant mieux. Mais de l'autre, on va leur proposer effectivement un temps d'espoir, mais après on va leur demander d'attendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus. Et ce qui serait souhaitable, c'est que ces ESAT proposent un temps adapté à chacun dans ce cadre de prise en charge, puisque ces ESAT fonctionnent sur du temps plein. Et ça, je pense que ça mériterait d'être revisité.
Moi aussi, je suis un peu décalé. En fait, moi, je suis atteint de schizophrénie. Et si j'ai pu vous décrire ma famille comme je viens de le faire, C'est parce qu'on m'a diagnostiqué tôt.
Extrait d'une vidéo conçue pour les journées de la schizophrénie qui se tiennent cette année du 17 au 24 mars. La peur de la stigmatisation est un frein pour le diagnostic de schizophrénie, mais aussi après, pour l'intégration du malade dans la société. Les fous, ça fait peur. Voilà une phrase parmi d'autres beaucoup entendues durant le tournage de ce reportage. Alors s'assumer comme handicapé psychique, très compliqué, comme l'explique Yves Pétard, président de l'UNAFAM de la Vienne.
Un jeune de 20-25 ans qui aspire à une vie normale, il n'a pas envie d'avoir l'étiquette handicapé tout de suite. Et l'étiquette handicapée est pourtant celle qui permet d'accéder aux compensations de la société, notamment l'allocation, comme son nom l'indique, adulte handicapé. Donc il y a tout un travail là aussi qui fait partie de l'accompagnement pour cheminer vers cette aussi acceptation du statut de personne en situation de handicap pour bénéficier des compensations prévues par la loi de 2005 de l'égalité des droits et des chances. Mais pour avoir une compensation, il faut demander la compensation. Pour demander la compensation, il faut être conscient qu'on a besoin de compensation. Et donc, ça fait partie d'un processus, là aussi, d'intégration de cette notion de handicap. La loi de 2005 a constitué une avancée considérable. L'installation de MDPH aussi.
MDPH.
Maison départementale des personnes handicapées, conséquence de la loi de 2005. Le fait que la désinstitutionnalisation par rapport aux asiles psychiatriques soit aujourd'hui considérée comme une évidence, c'est un progrès. Et puis, en même temps, le fait qu'on ne mette pas en face les structures d'accompagnement dans la cité, ça constitue une vraie difficulté. Par exemple, à partir du moment où on considère qu'il y a besoin d'une compensation par la maison départementale des personnes handicapées et le moment où la compensation peut effectivement être mise en œuvre, il faut compter un an. Qu'est-ce qui se passe pour une personne de 22-23 ans qui est au bord du gouffre et qui a déjà vécu l'errance et qui a déjà fait 2-3 crises de décompensation psychotique et qu'on largue à la sortie de ces 3 semaines d'hospitalisation en psychiatrie? Donc, nous essayons de mettre en place, par exemple, des formations croisées entre soignants et travailleurs sociaux. Ça se fait dans certaines régions de France, ça se fait pas encore dans la nôtre.
On parle de beaucoup, vous avez 7 points, vous disiez 7 points d'urgence qui sont urgents depuis 15 ans. La priorité dans la priorité, ça serait, c'est quoi aujourd'hui? On est dans quelle tendance?
Eh ben, cette priorité des priorités, elle n'existe pas, elle ne peut pas exister. Et c'est l'objet des 7 points de l'UNAFAM. C'est de dire que, évidemment, s'il n'y a pas de soin, tout l'édifice se casse la figure. Mais si le soin est le seul et n'est pas accompagné de préoccupations quant aux ressources, quant au toit, quant à l'accompagnement social, quant à la protection juridique, quant à l'insertion sociale et puis l'approche systémique avec tout l'entourage, eh bien, ce soin est vain s'il n'y a pas les autres. Donc, je refuse de m'exprimer en termes de priorité de priorité. Et c'est une grande difficulté aujourd'hui où toutes les instances, même en politique publique, veulent 4 indicateurs, 5 indicateurs synthétiques de l'efficacité d'une action. Chez nous, on ne peut pas sacraliser 5 indicateurs qui vont dire qu'on a bien travaillé. C'est plus vaste, plus complexe, plus fluctuant que ça. Parce qu'on ne peut pas établir une causalité simple. Si je mets de l'argent là, alors je résous 10% de cas en plus à 5 ans. Ça, c'est pas possible en psychiatrie. Donc, parce que la psychiatrie n'est pas que la psychiatrie est branchée sur la société. La société ne réclame pas plus de moyens en psychiatrie, elle réclame plus de moyens en cancérologie, elle réclame plus de moyens en maladie cardiovasculaire, parce que tout un chacun se dit « ça peut m'arriver un jour ». Personne ne se dit « moi je peux avoir un fils schizophrène », ça ne fait pas partie du paysage mental du citoyen français moyen. Donc quand on a un objet multiforme comme l'insertion d'un malade psychique dans la cité, eh ben, on ne sait pas par quel bout le prendre, donc on n'y met pas d'argent. En fait, c'est simple.
À bientôt 16 ans, Antoine a passé 3 ans en hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, il souhaite réaliser un de ses rêves, devenir paysagiste. Autre rêve, aller au Hellfest, le festival de musique rock et métal, ou encore tourner un documentaire sur la psychiatrie. Bref, la vie normale d'un ado normal.
Quand on sort, on espère juste une chose, aller mieux. Et que toutes ces années soient passées, tous ces temps soient passés, tous ces jours, ces à se demander mais quand est-ce qu'on sortira, est-ce qu'on aura un jour une vie comme les autres, une vie où on peut sortir comme on veut, on peut faire ce qu'on a envie de faire, on peut... Ouais, c'était vraiment un travail de longue haleine, mais j'espère que maintenant, ça ira mieux qu'avant. Quand tu sors de la psychiatrie, que t'as eu des problèmes, ne serait-ce qu'à l'école ou quoi, que tu te fais renvoyer pour des raisons X ou Y, que ce soit que t'aies menacé quelqu'un, que t'aies frappé quelqu'un, que tu sois... ou même plus... que ce soit plus ou moins toi la victime, que tu sois harcelé ou des trucs comme ça... Je trouve que ça change vachement la vision du monde. Tu te sens un peu... Moi, en tout cas, c'était ça. C'était vraiment... Je me sentais mal. Je savais pas comment me tenir dans les magasins. J'avais l'impression que tout le monde me regardait bizarrement. Le retour à la vie, entre guillemets, normale, était vraiment compliqué parce que je savais pas trop comment me comporter avec les gens, comment ça se passait. J'avais vraiment l'impression d'être... visé par les gens, par rapport à leur regard, par rapport à leur façon de faire. On me disait, c'est bizarre, enfin... Pourquoi il me regarde, lui? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je sais pas, j'ai une tête à venir dans la psychiatrie? Enfin, voilà. On se pose des questions, et puis... de renouer contact avec la population, ça peut être compliqué. Parce que il y a tous ces gens qui leur font peur, quelque part. Parce que dès que t'as l'impression... Enfin, je sais pas comment dire, mais...
Donc, tout le monde te regarde. Enfin, c'est que ça doit être ce que tu décrivais là, de demander, mais est-ce que les gens voient que je sors de psychiatrie
ou... Ouais, il y a ça, et des fois il y a des gens à qui ça fait des peurs à un tel point qu'ils fondent dans une profonde dépression, qui sont très très tristes, qui sont même jusqu'à vouloir se pendre ou se mutiler. Je connais beaucoup de personnes qui sont des bras assez horribles. Bon, c'est des bouchères. Ils font ça au cutter, ou tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que ça va tellement mal pour faire ça? Le nombre de personnes que je connais, qui enfin, je pense à une personne en tête là, donc je ne traiterai pas le nom, mais voilà. Cette personne, c'est une très bonne amie, et je me rappelle d'une fois où elle était vraiment pas bien. Elle arrivait et elle s'explosait la tête contre les murs, contre. Elle s'arrachait les cheveux, c'était quelque chose. C'était très triste parce qu'on se disait mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle aille mieux, qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup demandé de réflexion, et j'ai toujours essayé d'être présent pour les gens qui n'allaient pas bien. Psychiatrique, ça peut vraiment démoraliser, ça peut vraiment être compliqué pour avoir un projet et tout, mais j'ai fait 3 ans de la psychiatrie, et maintenant je compte bien rattraper le temps que j'ai perdu en travaillant. Là, je suis en train de devenir. J'essaie de devenir paysagiste, et ça me plaît vraiment beaucoup. C'est vraiment cool. J'ai envie de montrer aux autres que c'est pas vrai ce qu'on croit, et que, justement, arrêtez de me regarder comme ça et apprenez avant de parler. Que vous regardiez les gens qui sont de psychiatrie d'un autre regard. Parce qu'ils sont pas méchants, ils vont juste différents. Et sachez que si c'est pas toi, ça pourrait être ton frère, ta mère, ton frère, ton... Je sais pas trop qui de ta famille, mais voilà. Pense juste que ça pourrait être toi à la place de la personne, et que t'aimerais pas qu'on te regarde comme ça. On est tous quelque part un peu fous, et... Des fois, quand on est en psychiatrie, on croit qu'on est fou, mais on n'est pas fou, on est juste à un moment donné un peu plus compliqué de notre vie. Et j'aimerais juste que tous les gens qui croient que la psychiatrie c'est pour les fous, qui changent ce regard, ou s'ils croient vraiment que c'est ça, qu'ils aillent en psychiatrie, qu'ils voient ce que c'est, qu'après on en parle.
Schizophrénie, vivre avec. Un reportage de Sarah Maquet avec Yacine Bouzard à la réalisation. Pour prolonger la réflexion avec nous, deux invités, Marie-Odile Krebs, psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne, professeur de psychiatrie, et Michel Lafourcade, directeur de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, auteur du rapport sur la santé mentale présenté fin 2016. Marie-Odile Krebs, on aidera d'autant mieux un schizophrène qu'on l'accompagnera tôt. Or aujourd'hui, le diagnostic est souvent tardif. Pourquoi ?
Mais pour tous les éléments qui ont été cités dans le reportage, c'est-à-dire la première chose, c'est la stigmatisation.
C'est-à-dire que comment voulez-vous convaincre des parents ou des personnes qui ont besoin de soins d'aller en psychiatrie alors qu'on véhicule cette image, hein, ça a été cité par le jeune psychiatre, c'est Volodchina Nikoukou qui est la référence, et malheureusement même des films ou des séries tournées très récemment véhiculent cette même image. Ça, c'est un élément majeur par rapport au retard à l'accès aux soins. Et puis il y a aussi la diversité des manifestations, la période où ça survient. On voit bien dans le début du reportage où on nous décrit une crise d'adolescence qui tourne mal, et effectivement c'est compliqué de faire la part des choses.
Michel Lafourcade, qu'est-ce qui peut être fait pour rendre possible un diagnostic plus précoce, puisque vous l'appelez de vos voeux, vous, dans votre rapport justement?
Alors, d'abord que nous pouvons avancer en matière de formation initiale, notamment des médecins généralistes, puisque ce sont en général eux qui sont au premier contact des troubles et au premier contact qui permet un diagnostic précoce. Et la ministre en particulier a annoncé qu'elle souhaitait que le plus rapidement possible, il y ait 100% des médecins généralistes en formation initiale qui puissent faire un stage en psychiatrie. On peut penser également à tout ce qui est formation continue, désormais obligatoire pour les médecins. J'envisagerai un dernier point peut-être qui a été évoqué par un des participants du reportage il y a quelques minutes, lorsqu'il appelait de ses voeux, comme je le fais dans mon rapport, des formations croisées entre soignants des écoles d'infirmières par exemple, et puis étudiants en institut de formation en travail social. Nous avons intérêt à multiplier ce type de formation sur plusieurs thèmes, la santé des plus démunis, la schizophrénie, bref. Quelques pistes qui sont des pistes à portée de main, me semble-t-il, et qui pourraient rendre notre dispositif plus efficace.
Une question de Sarah Maquet.
Michel Lafourcade, vous dites des pistes qui semblent à portée de main, vous les notez dans votre rapport. En même temps, on a un peu l'impression que les rapports, il y en a beaucoup qui expliquent que c'est à portée de main, et en même temps, sur le terrain, ça avance très lentement ou très difficilement. Qu'est-ce qui manque? C'est des moyens? C'est de travailler ensemble? Qu'est-ce qui manque pour faire en sorte que ce rapport-là, il se concrétise sur le terrain?
Eh bien, écoutez, peut-être ce qui manquait ces dernières années, c'est la volonté de traduire en acte les propositions de ces rapports, qui sont presque tous convergents avec un angle d'attaque un peu différent en fonction de la lettre de mission qui avait été donnée au rapporteur. Et la ministre vient d'indiquer clairement qu'elle ne souhaitait pas avoir de rapport supplémentaire, mais qu'il était temps de passer à l'acte. Et je crois qu'il y a aussi eu un texte fondateur, tout ne passe pas par les textes, tant s'en faut, mais un texte fondateur qui est sorti au mois de juillet de cette année, qui indique clairement qu'il faudra que sur l'ensemble du territoire national, on puisse trouver une forme de panier de services minimum, qui liste d'ailleurs les principaux éléments de ce panier de services, qui doit déboucher sur un projet territorial de santé mentale contrôlé, impulsé par les agences régionales de santé. Je crois que c'est une avancée très significative, un outil important, dans la mesure où le constat que j'avais fait, c'est un constat autour d'une extraordinaire floraison d'initiatives sur tout le territoire, mais en même temps une grande hétérogénéité. C'est-à-dire, si on additionnait toutes ces pratiques absolument remarquables, on aurait le meilleur système de santé mentale au monde, sans aucun doute. Mais le problème, c'est que tout cela ne fait pas système et reste très hétérogène sur tout le territoire.
Alors, je reviens vers vous, Marie-Odile Krebs, pour bien cerner la problématique de la schizophrénie. Qu'est-ce qui provoque ces troubles, en fait? C'est un dysfonctionnement du cerveau?
Alors, clairement, la schizophrénie est une maladie qui trouve son origine souvent, on le pense, les arguments sont de plus en plus marqués, souvent dans des éléments très précoces, voire même avant la naissance. Ça, sur ce terrain-là, ce qu'on appelle un terrain de vulnérabilité, qui peut être génétique ou qui peut être lié à des facteurs d'environnement pendant la grossesse, vont se produire un certain nombre de modifications et éventuellement évoluer vers un trouble. La plupart des personnes qui sont porteurs ou porteuses d'une vulnérabilité ne vont pas évoluer vers la maladie. Et donc, il est très important de comprendre comment cette vulnérabilité initiale liée à un trouble du neurodéveloppement va ou non pouvoir s'exprimer. C'est important parce que on voit toujours l'évolution négative. Là, on parle de, malheureusement de personnes qui ont effectivement vu la maladie s'exprimer. Mais ça laisse une place importante, une opportunité pour aussi comprendre quels sont les mécanismes protecteurs et pour trouver des méthodes de prise en charge et éventuellement de traitement qui permettent de limiter l'évolution, de l'atténuer, voire même de prévenir. On parle aujourd'hui de pouvoir prévenir la schizophrénie.
Mais on ne parle pas de guérison, on parle de rémission.
Alors c'est à ce mot qui est souvent prononcé par les familles, est-ce qu'il va guérir ou est-ce que je vais guérir par les patients eux-mêmes, je ne sais pas ce que c'est exactement que la guérison. Il y a une vraie difficulté à définir ça. Si on prend la plupart des maladies somatiques, la plupart, vous allez vous rétablir. Vous allez, après un infarctus du myocarde, avoir une petite cicatrice sur votre cœur. Vous allez être un peu plus vulnérable que vous l'étiez avant, mais vous allez pouvoir vous rétablir et retrouver une certaine forme d'activité qui est satisfaisante. Pour les maladies psychiatriques, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prédire que le rétablissement sera à 100%, mais il y a des vrais leviers pour que le rétablissement soit tende vers quelque chose qui soit satisfaisant et qui permette de retrouver, reportage cité, la capacité à faire un métier qui l'intéresse, etc., etc. C'est ça la guérison. C'est une guérison fonctionnelle avec une atténuation des symptômes, évidemment.
Et donc, les soins, c'est des traitements médicaux et puis un accompagnement psy également.
Les soins sont absolument passent par des antipsychotiques qui permettent de réduire la sévérité et l'angoisse qui est associée à cela. Et effectivement, aujourd'hui, ces antipsychotiques qui ont réellement permis une révolution dans la capacité des personnes à retrouver leur vie ne sont néanmoins pas tout à fait suffisants. Et par ailleurs, certains patients, en plus, répondent pas très bien au traitement. Donc on a encore des efforts à faire sur les médicaments ou sur les modalités de traitement médicamenteux ou de stimulation. Mais bien sûr, il y a toute cette place de l'accompagnement qui est absolument essentiel parce que ça permet effectivement de travailler sur le contexte, sur l'environnement, les familles, le travail, l'école. Et puis, ça permet aussi de reconstruire et d'agir sur toutes les capacités cognitive, la capacité de planifier. Alors, la cognition, c'est quoi? C'est planifier, être capable d'être attentif à tel ou tel signal, de pouvoir programmer son agenda, etc., etc. Ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Et ça, ça passe essentiellement par des programmes de remédiation cognitive, d'accompagnement, de transfert au quotidien qui sont absolument indispensables.
Mais alors, les unités fermées, c'est indispensable? Et si oui, dans quel cas?
Alors, l'unité fermée, c'est généralement le terme qui est utilisé par les familles. On parle, nous, d'unité protégée. Il faut malheureusement...
Parce que c'est assez effrayant, on voit la vue de l'extérieur.
C'est effrayant. Si on pouvait s'en passer, on le ferait. Mmh. Et les praticiens en premier, c'est pas de gaieté de cœur, largement pas. Et il faut simplement effectivement se rendre compte que parmi nos patients et parmi les situations rencontrées, certaines sont des situations d'urgence avec un risque vital. La violence est généralement contre eux-mêmes, hein, avant d'être contre les autres. Mais on a des situations d'agitation avec des contre-indications au traitement, avec des situations réellement d'urgence qui nécessitent qu'on puisse effectivement protéger. L'isolement, c'est souvent pour protéger le patient de lui-même et non pas protéger les autres. C'est avant tout c'est ça qui détermine la nécessité d'un isolement. Ça doit être contrôlé, ça doit être surveillé, ça doit être encadré, etc., etc. Mais malheureusement, certaines situations sont vraiment ne peuvent pas se passer d'une période d'isolement qui est généralement très courte.
Michel Lafourcade, vous écrivez dans votre rapport « Le centre de gravité du dispositif de soins doit devenir le domicile, l'hôpital, l'exception. » Mais comment y parvenir ?
J'ai bien écouté l'histoire récente, depuis maintenant 40 ou 50 ans, nous montre que l'hôpital psychiatrique a été capable d'inventer ce que l'on a appelé le secteur, c'est-à-dire des pseudopodes sur le territoire de l'hôpital qui sont au plus près de la population concernée, qui peuvent s'appeler centres médico-psychologiques, qui peuvent s'appeler hôpitaux de jour ou d'autres formes effectivement de services. Eh bien, je crois qu'il faut aller jusqu'au bout de cette logique-là. Pour aller dans une logique de proximité, dans une logique d'aller vers, jusque et y compris au domicile des personnes pour éviter l'hospitalisation ou dans une période post-hospitalisation. Et s'il fallait fixer un objectif, c'est un peu celui qu'on essaie de fixer à l'ensemble des établissements psychiatriques d'Aquitaine. Pourquoi ne pas imaginer que 60% des moyens, que ce soit des moyens financiers ou des moyens humains, de l'hôpital concerné soient utilisés pour tous ces services de proximité, et puis 40% pour l'hôpital intramuros dans sa définition la plus ancienne et la plus classique, qui bien évidemment continue à rester indispensable. C'est un rapport qui vaut ce qu'il vaut. Je dirais simplement qu'ayant fait un petit tour de France à l'occasion de mon rapport, je me suis rendu compte qu'il y a déjà des établissements et des secteurs qui fonctionnent sur ce registre-là et où manifestement les hospitalisations classiques sont réduites à la portion congrue sans que ça gêne l'ensemble des patients et des professionnels, bien au contraire.
Alors, on ne nous dit rien, disait Aline, au sujet de l'hospitalisation de son fils Antoine. Les parents ont souvent le sentiment d'être mis à l'écart alors qu'ils sont en grande demande d'informations et de conseils. Comment intégrer véritablement les proches dans le parcours de soins? Alors, on a entendu l'exemple dans votre reportage, Sarah Maquet, mais vous qui êtes psychiatre, Marie-Odile Krebs, est-ce que justement les soignants ont bien conscience de la nécessité d'accompagner les familles, de les rassurer d'une part, de leur donner des clés de compréhension et d'action, d'autre part?
Je crois que les choses sont en train de changer difficilement, parce qu'effectivement, il y a besoin de moyens pour les prises en charge en ambulatoire et l'accompagnement, c'est tout à fait clair. Je suis pas sûre qu'on puisse réduire pour autant les moyens donnés aux hôpitaux. Mais très clairement, c'est une des clés d'une meilleure prise en charge. Clairement, les familles sont en première ligne pour éventuellement hospitaliser, pour repérer les symptômes, mais aussi, malheureusement, puisque au-delà de l'hospitalisation, le devenir des personnes sont souvent, y compris pour des adultes, au domicile des parents qui vont devoir s'accommoder de ce jeune adulte avec tous les problèmes qui se posent, pas seulement uniquement liés à la maladie par ailleurs. Donc c'est absolument essentiel de leur donner quelques clés, d'abord parce que souvent ils se sentent très coupables de tout cela, il y a des informations nécessaires, indispensables à leur donner. Et puis, on leur apprend à comment gérer, comment être, comment faire quand il y a des éléments délirants qui reviennent, comment gérer leur position vis-à-vis de « il faut que tu prennes ton traitement ». Alors, c'est pas à eux de surveiller le traitement, mais néanmoins, ils sont aux premières loges pour comprendre l'intérêt du traitement et aider leur jeune à poursuivre le traitement. Donc, c'est absolument essentiel. La difficulté aujourd'hui, c'est de pouvoir donner ça, on parlait du panier de services, les programmes de psychoéducation pour les familles doivent faire partie de ce panier de services, devraient être plus accessibles, avec des problèmes de financement qui sont partiellement résolus, puisqu'on expliquait que c'était initialement les ARS considéraient que c'était pas directement pour le patient. Bon, les choses sont en train de changer très favorablement. Moi, j'ajouterais que c'est indispensable de commencer ces programmes de psychoéducation dès le début, parce que ProFamille, c'est pour des familles dont le jeune a un diagnostic depuis généralement plusieurs années. Donc c'est absolument indispensable de les inclure
plus tôt,
dès le début.
Sarah Maquet.
Juste pour justement inclure ces programmes, là, les personnes qui ont mis en place ProFamille disaient qu'ils avaient vraiment du mal à faire passer l'information et du coup que dans le monde médical, il y avait aussi toujours des résistances. C'est pas simple, je crois, pour certains psychiatres qui veulent mettre en place ProFamille ou un autre programme psychoéducatif. Ça avance effectivement, mais c'est quand même encore compliqué des fois aussi du côté du monde médical d'inclure les proches, si je ne me trompe pas.
Alors, il y a évidemment des difficultés rencontrées entre différents professionnels qui peuvent avoir ou non cette envie de voir les parents de leurs patients suivre les programmes. Je suis pas sûre que ce soit un frein majeur aujourd'hui. C'est plutôt l'accessibilité. C'est difficile aussi de rendre public le fait qu'il y a tel ou tel programme. On est plus souvent en train de faire du soin plutôt que de faire de la publicité, ce qui est d'ailleurs par ailleurs interdite. Donc, il y a une vraie difficulté à organiser. Peut-être que là, il y a des choses assez simples qui pourraient être mieux faites, entre guillemets. Moi, j'ai plutôt le sentiment qu'on a des listes d'attente et qu'il n'y a pas suffisamment d'endroits où on peut trouver ce type de programmes qui sont clairement efficaces et très appréciées par les parents.
Michel Lafourcade, comment est-ce qu'on peut faire pour justement développer ce type de programme que vous encouragez vous-même?
Eh bien, écoutez, il faut effectivement que dans ce projet territorial de santé mentale que l'ensemble des partenaires sont en train de construire sur tout le territoire, il faut que dans ce panier de services absolument indispensable, on retrouve ce type de programme psychoéducatif, type ProFamille, puisque c'est quand même un des plus structurés, un des plus connus, ou d'autres types, Il faut vraiment que ça soit dans cette offre indispensable sur tout le territoire pour qu'on aille vers plus de généralisation. Ça ne coûte pas des cents et des mille. Je pense que le problème n'est pas pour l'essentiel financier. Et je confirme ce que vient de dire Madame Krebs. Sur le terrain, on voit que les réticences sont chaque jour un peu plus levées. Et que vraiment, là, on peut avoir l'ambition d'une forme de généralisation dans cette optique systémique qu'évoquait tout à l'heure dans le reportage un des psychiatres. Bien évidemment, il faut entourer les aidants, il faut entourer la famille. Ce sont des choses dans tous les domaines, des situations complexes qui ont fait leur preuve. Le soutien des aidants, la formation des aidants dans une dynamique de groupe de parole et d'apprentissage collectif a fait ses preuves en matière d'efficacité. Donc ça nous aide aussi à refonder toute la santé mentale dans une logique de culture de la preuve.
Alors on a parlé des soins, mais on a entendu dans le reportage l'inquiétude des familles pour l'avenir, puisque comme tout le monde, les personnes souffrant de schizophrénie ont besoin de se loger, d'avoir des revenus. Mais pour parvenir à l'insertion sociale et professionnelle, quand c'est possible, elles ont besoin d'un accompagnement sur mesure. Est-ce que c'est possible, Michel Lafourcade ?
Écoutez, c'est possible, ça fait ses preuves dans plusieurs parties du territoire et cela aussi devra figurer dans cet accompagnement sur l'ensemble du territoire. C'est possible, au moins à double titre. Et je parle là de, là aussi, l'expérience, plusieurs expériences évoquées dans votre reportage où on entend Antoine, par exemple, le futur paysagiste ou d'autres, expliquer que peut-être en première intention, c'est possible dans des établissements adaptés. Ce qu'on appelle dans notre jargon les ESAT, ces établissements qui reçoivent des personnes qui ont une certaine capacité de production de travail, mais qui ne peuvent pas encore travailler en milieu ordinaire. Et il faut que ces établissements soient de plus en plus accueillants au handicap psychique. Il faut qu'il y ait de petites unités dans ces établissements destinées précisément aux personnes atteintes d'handicap psychique. Et puis, chaque fois qu'on le peut, c'est-à-dire beaucoup plus souvent qu'on ne l'imagine, il faut aussi un accompagnement dans le milieu ordinaire, parce que bien des schizophrènes sont capables de travailler dans le milieu ordinaire à condition que l'accompagnement soit un accompagnement sur mesure. Ce qui veut dire que nos établissements médico-sociaux doivent aussi se transformer en établissements ressources capables de faire cet accompagnement sur mesure auprès de la population travaillant dans le secteur économique ordinaire.
On peut d'ailleurs souligner l'existence de lieux comme le Clubhouse France, il y en a un à Paris, un autre à Lyon, un à Bordeaux, qui sont des lieux de vie créés pour et avec des personnes fragilisées par les troubles psychiques. Donc là, on voit que ces personnes deviennent aussi actrices de leur vie et de leur avenir. Marie-Odile Krebs, en ce qui concerne la recherche médicale, est-ce qu'il y a aujourd'hui des avancées intéressantes, des pistes explorées qui permettraient de mieux comprendre et de mieux soigner ?
Alors il y a effectivement des pistes et des sources d'optimisme. Je le disais tout à l'heure, on considère aujourd'hui que l'émergence des troubles, c'est l'interaction entre une vulnérabilité initiale mais qui se révèle tardivement au moment de l'adolescence, à la fois parce que cette période de l'adolescence est une période tout à fait particulière, une période critique du développement, pendant lesquelles toutes les personnes, tous les adolescents sont plus particulièrement sensibles à un certain nombre de facteurs. Alors parmi les facteurs les plus simples, il y a le stress, tout simplement, le stress social. Et ça peut amener à certaines prises en charge spécifiques, y compris dans le milieu scolaire. Et puis, il y a aussi la question de la consommation de substances et notamment la consommation de cannabis. Et là aussi, il y a aussi des mesures qui pourraient être des mesures favorisant la protection et une certaine forme de prévention.
Il y a des signes avant-coureurs pendant l'enfance qu'on n'identifie pas suffisamment ?
Pendant l'enfance, on peut voir des marqueurs de cette vulnérabilité, mais pour autant, ça ne veut pas dire que les gens sont déjà malades. Par contre, les troubles cognitifs dont on parlait, les petites difficultés, notamment la difficulté à se concentrer ou à manier des concepts et à réfléchir, peuvent survenir avant même que les éléments d'hallucination soient vraiment présents. Si on arrivait à mieux screener et dépister ces troubles, on pourrait agir plus vite.
Merci Marie-Odile Krebs, merci Michel Michel Lafourcade. Merci également à France Bleu Gironde de vous avoir accueilli dans son studio. C'était le magazine de la rédaction Schizophrénie, Vivre avec, reportage de Sarah Maquet avec Yacine Bouzard à la réalisation et d'Ofar Guérid à la technique. Rendez-vous sur le site franceculture.fr pour réécouter le magazine et accéder à des informations complémentaires. C'était une rediffusion de l'émission du 2 mars 2018.